Cour de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard le 4 mars 94.
Serais-tu arrivé à la critique de la connaissance artistique? C'est important pour voir quel est le caractère de vérité dans la connaissance artistique, puisque la vérité est la qualité de l'intelligence, la qualité propre de l'intelligence. Partout où l'intelligence structure, elle structure la prudence, elle structure l'activité artistique. Il ne faut jamais l'oublier. Une œuvre d'art est une œuvre de l'intelligence. Évidemment, il y a le côté affectif. Mais la véritable œuvre d'art est une œuvre de l'intelligence pratique et artistique. Donc, c'est du reste ça qui donne aux grandes œuvres artistiques quelque chose qui est au-dessus du temps. Quand une œuvre est trop imaginative, le débordement imaginatif dans notre monde d'aujourd'hui. Point de vue artistique, ça devient instinctif. Tous les procédés qu'on peut voir, imaginatifs et sensibles et affectifs. Et la note intellectuelle arrive quelquefois même à disparaître. Alors c'est plus de l'art. Un singe pourrait faire la même chose. Mettez un pinceau dans le museau du singe et vous verrez qu'il fera des choses très artistiques. Des choses étonnantes. Mais le hasard, c'est plus l'intelligence. Alors, la connaissance artistique est commandée par l'idéa. L'idéa qui est le fruit d'inspiration. Alors c'est là où on trouve des positions diverses. La position de Maritain est intéressante. Elle n'est pas juste. Du moins, je crois qu'elle n'est pas juste. Elle est très curieuse. C'est le livre qu'il a écrit en Amérique. Parce qu'il a écrit deux livres sur l'art. Le premier livre, c'était très fort, avec le père de Haut. C'est ce qu'il m'a dit. Art scolastique. Et puis le second livre était très fort à partir de peintres modernes qui ont joué un rôle assez important sur la sensibilité de Maritain. à se préciser. L'idée qui provient de l'inspiration n'est jamais parfaitement déterminée. C'est pas un concept. C'est pas un concept spéculatif. Le concept spéculatif est très déterminé parce qu'il y a une logique. Y a-t-il une logique dans l'art? Vous se posez la question. Évidemment, poids lourd, tout donnerait une logique de l'art. Mais c'est assez particulier. Y a-t-il une logique de l'art? Y a-t-il une logique dans le point de vue artiste, dans le point de vue éthique? La logique est au niveau de la connaissance spéculative. Alors on a une rhétorique qui est au service du point de vue politique. Et on peut avoir une certaine rhétorique au service de l'éducation. Et la rhétorique est un art. Et un art qui pourrait justement être assez proche de la logique, mais une logique symbolique, puisque la rhétorique est symbolique. Et je ne crois pas qu'il y ait une logique propre à l'art. L'artiste n'a pas besoin de logique. Tandis que la connaissance spéculative a besoin de logique. Pourquoi? À cause de l'abstraction. Quand il n'y a plus d'abstraction, il y a besoin de logique. Et l'art n'est pas abstrait. Quand on parle de l'art abstrait, on parle d'un genre particulier de l'art, mais l'art comme tel n'est pas abstrait. Parce que même l'art abstrait est concret. C'est évident. On rejette la figure, mais on garde les couleurs et on garde les formes géométriques. Vous voyez, donc il y a abstraction de certaines choses dans l'expression, mais il n'y a pas d'abstraction. L'art abstrait, c'est pas l'art qui est abstrait. L'art est toujours concret, c'est une œuvre. Et l'œuvre est toujours concrète. Mais c'est pour ça que l'expression art abstrait, c'est contradictoire. C'est-à-dire, un type particulier de l'art qui veut purifier certaines choses. Et l'art abstrait est né pour purifier certaines choses, où le point de vue de l'expression, de la figura, de ce qui était exprimé, devenait principal. Et donc, quitter ce qui est principal dans l'art de la peinture, qui est le point de vue de la lumière, qui est le point de vue de la couleur et de la lumière. Alors ça devenait second. Les sensibles propres devenaient second, puisque la figura, c'est un sensible commun. Alors, on est tombé de carrément celle-là, pas entièrement, parce qu'il y a dans l'art abstrait quelquefois une harmonie de couleurs très étonnante. Et l'harmonie de couleur est plus proche de la peinture que la figura. C'est plus proche de la lumière. C'est tout le sens de l'art abstrait qui est au fond une espèce de purification de certaines choses qui avaient pris trop d'importance. Ne vous inquiétez pas, c'est le tonnerre. Alors, il faut comprendre. L'idée se précise à travers la réalisation du travail. Et l'idée va demeurer jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, l'idée mesure toute l'activité. Et donc l'activité artistique est vraie quand elle est conforme à l'idée. Mais vous voyez que c'est une conformité très particulière. Parce que on trouve dans la connaissance artistique la subjectivité transcendantale, dans l'idée. C'est toujours intéressant de voir où un philosophe est vrai. Kant est vrai en partie par le point de vue esthétique, par le point de vue artistique, par le point de vue de l'imagination. C'est ça qui est le plus intéressant en lui. C'est là où on trouve quelque chose qui peut nous intéresser. Il a compris, Kant a compris, le point de vue de la science, en quelque sorte, allait annexer toute la connaissance scientifique, toute la connaissance spéculative. Et qu'il fallait alors retrouver une sorte de spontanéité artiste en état de grâce, comme ils diront, comme les artisans. Parce que quand ils n'ont pas d'inspiration, ah oui, ils se taisent. Puis ils attendent. Et ils fument l'opium pour que ça vienne. Ils attendent. Et c'est vrai, un artiste qui n'a plus d'inspiration, il se met très souvent à boire. Ou à regarder le... possibilité de dépassement. C'est très curieux, ça. C'est ce qu'on a vu, ce qu'on voit, ça, constamment. Vous voyez, les artistes, sous le marxisme, par exemple, ils étaient muselés. Et pour un artiste, c'était terrible. Ce sont les, presque les artistes qui ont souffert le plus sous le régime marxiste. Parce qu'ils étaient réduits à être les peintres du régime. Et ça va pas très loin. Alors, c'est eux qui souffrent le plus. Un spéculatif, un philosophe, peut beaucoup facilement détourner la tyrannie du marxisme qu'un artiste. Parce qu'un artiste a besoin du public. Il a besoin de réaliser quelque chose. Un artiste qui n'a pas son public, mais il est triste. Un contemplatif, il peut vivre dans la solitude. Il n'a pas besoin de la joie. Il n'a pas besoin de la vie commune, un contemplatif. Et là, il la donne en surabondance. Mais la vie commune n'est pas ce qui détermine sa vie. C'est sa contemplation. Tandis que l'artiste ne peut pas... Alors c'est là, vous voyez, la vérité de l'artiste, elle est complexe. Parce que l'art ne peut pas se couper de la communauté. Il n'y a pas d'art solitaire. C'est impossible. Il faut qu'il y ait un répondant. L'artiste a besoin de réciter ses poèmes devant un ami ou devant sa cuisinière. Molière faisait ça. Pour voir si ça passait, vous voyez. Alors, il a besoin d'un répondant. L'ami, c'est celui qui est le meilleur répondant. Mais on le trouvera toujours. Et puis l'ami, quelquefois, va avoir des goûts tout à fait différents au point de vue artistique. C'est très curieux, ça. L'amitié peut dépasser l'art. Quand l'amitié s'incarne avec l'artiste, c'est mieux. C'est sûr. Mais l'amitié est quelque chose de plus spirituel que l'art. Une amitié sensible et très affective, elle se noue dans l'art et quelquefois, c'est à ce moment-là où il y a des blessures très fortes au point de vue artistique. Parce que ils s'aimaient et ne voyaient pas qu'ils avaient deux sensibilités totalement différentes. Et dès que le point de vue artistique apparaît, tout de suite la sensibilité apparaît. Et alors quelquefois ça peut être tel que ça fait des brisures. C'est très très curieux. Ceci peut exister dans un foyer. On n'a pas fait assez attention. L'amitié pour un foyer implique le point de vue sensible. L'amitié quand elle s'incarne dans la vie commune implique le point de vue sensible. Et alors le point de vue artistique joue. Donc vous voyez, l'activité artiste, l'activité du travailleur, c'est l'activité la plus typiquement humaine, parce qu'elle noue l'esprit et le corps. Les anges ne sont pas des artistes. C'est pour ça qu'ils sont des réconciliateurs. Ils ne sont pas des artistes, les anges. Alors on parle du chant de l'ange, de la liturgie angélique. C'est une liturgie très particulière. Et qu'elle écoutait, hein. Très particulier. leur déclare humain saisit l'homme dans tout ce qu'il est. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très particulier dans la vérité de l'artiste, dans la vérité du travail artistique, dans la vérité du jugement artistique. Il y a quelque chose même d'unique et caractéristique de l'homme, comme le travail est caractéristique de l'homme, l'œuvre artistique est caractéristique de l'homme et forme la culture. La culture est premièrement une œuvre d'art. Les artistes sont responsables de la culture, en premier lieu. Oui, plus que la philosophie. Parce que la philosophie, ça passe toujours un tout petit peu au-dessus. On est au-dessus des nuages. Alors, dans le ciel, magnifique, toi. Dans la métaphysique, on a un ciel lumineux, extraordinaire. Tandis que l'art est en plein dans la tragédie. Même quand il est peintre, il est toujours un peu tragique. Il n'est pas au-dessus de tous les nuages. Il est dedans. Et parce que c'est la lumière et l'obscurité. C'est comme la danse. C'est comme la sculpture. C'est comme la tragédie. Tous sont liés à la situation tragique de l'homme. Et l'artiste exprimera cette situation tragique de l'homme. Cette situation tragique de l'homme, c'est justement la complexité de son corps et l'unité de son esprit. Et ceci est d'autant plus tragique à cause des conséquences du péché originel, que l'artiste ne saisira pas, mais le saisira dans le point de vue de la tension. L'artiste vit de tension, et quand il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien. Le karma bloque, ça ne va pas du tout chez l'artiste. Il a besoin de tension. Mais c'est là où on voit très bien que le point de vue artistique et le point de vue de la charité fraternelle, ça ne va pas tout à fait dans le même sens. La charité fraternelle veut la paix, la joie. L'artiste veut la tension, parce que c'est la guerre est le père de toute chose, Héraclite. La guerre est le père de toute chose. Parole typiquement hegélienne. Parce que, et c'est en ce sens-là que dans Hegel, il y a beaucoup d'art. Dans la pensée dialectique, il y a beaucoup d'art. Parce qu'il y a toujours le tragique et la tension. Alors, qu'est-ce que sera la vérité? C'est pas le dépassement du tragique, c'est à l'intérieur du tragique, l'harmonie, qu'il y aura entre les deux tensions. Et plus les tensions sont fortes, et plus l'harmonie est forte, plus l'œuvre d'art sera œuvre d'art. Alors, quelle sera la vérité? Bien, c'est le point de vue de l'idéa qui se modifie à travers le devenir du travail. Le travail, c'est le devenir vécu. Le travail est toujours dans le devenir. Et le devenir implique toujours les deux contraires. Et un sujet qui n'est pas dit. Alors vous avez, de fait, les deux contraires et le sujet qui n'est pas dit. C'est le propre du devenir. Et c'est le propre du travail. Alors, l'idéa mesure, dirige, oriente le travail. Et l'idéa mesure l'œuvre d'art. Et l'œuvre d'art mesure l'idéa. Alors, c'est là qu'on voit comment tout travail implique une lutte. Puisque, de fait, vous n'avez pas une mesure absolue. Vous pouvez être dans la paix et la joie quand il y a une mesure absolue vers laquelle vous tendez et qui est une et qui transcende. Tandis que l'idéa ne transcende pas. Elle transcende, oui, mais elle demeure ce qui dirige le devenir. fatale, irréductible à l'idéal. La cause matérielle ne fait pas partie de l'idéal. Et la cause matérielle modifie, et la cause matérielle peut déterminer. Alors c'est là où c'est difficile de préciser ce qu'est la vérité dans l'art. Parce que toute vérité présuppose une mesure. Et moi je suppose que le mesuré soit semblable à sa mesure, soit adéquat à la mesure. La fameuse définition de la vérité, notamment d'Aquin, tu vois. Que l'intelligence soit conforme au réel. Conforme. Conformité. Donc semblable et donc mesurée. Alors, est-ce que vous pouvez définir la vérité de l'œuvre d'art en disant qu'il faut que l'œuvre soit mesurée, adéquate à l'idéal? Non. Est-ce que vous pouvez dire qu'un travail est vrai, le travail artistique est vrai, quand il est mesuré par l'idéal? Non. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre, il y a toujours quelque chose d'irréductible à l'idéal. Quelque chose qui vient de l'extérieur. Une œuvre qui serait purement immanente ne serait plus une œuvre d'art. Ce serait une idéalisation de l'œuvre d'art. Et il y aurait quelque chose qui ne serait plus incarné. Il y aurait quelque chose qui ne serait plus incarné. Et donc qui ne serait plus vrai. L'œuvre d'art, c'est l'incarnation, dans ce cas-là, de l'absolu. L'incarnation de l'idéal. Et l'idéal qui s'incarne est irréductible. Est irréductible à l'idéal pensé. Alors comment préciser la vérité dans l'œuvre d'art si vous n'avez plus de mesure absolue? Si vous êtes en face de quelque chose de complexe, vous devez considérer donc que la vérité de l'œuvre d'art implique d'être mesurée par l'idéa. Mais l'idéa elle-même n'est vraie que lorsqu'elle respecte le côté de la matière qui s'ajoute de l'extérieur. Et qui n'est jamais totalement assimilé. Vous voyez, c'est la différence entre l'œuvre d'art et la nature. Dans la nature, il y a une identité substantielle entre la forme et la matière, l'âme et le corps. Identité substantielle. Est-ce que vous avez une idée substantielle dans l'œuvre d'art entre l'idéa et la matière? Non. L'idéa toujours plane un peu. C'est pour ça que l'artiste plane toujours un peu. Parce que l'idéa plane toujours un peu. L'idéa a toujours quelque chose qui transcende la matière. C'est la splendeur de la forme. Elle transcende la matière. Et c'est ça le beau. Lorsque la forme informe pleinement la matière, nous sommes en face d'une œuvre bonne, d'une réalité bonne. Tandis que quand la forme transcende un peu la matière, alors c'est le beau qui apparaît. C'est la splendeur qui apparaît. Or, dans toute œuvre d'art, il y a toujours entre l'idéa détermine l'œuvre artistique et qui se réalise dans l'œuvre, entre l'idéa réalisée dans l'œuvre et la matière, une sorte, je dis bien, une sorte d'inadéquation. il y aura toujours dans la matière quelque chose de sauvage et d'irréductible. De non éduqué. Quand c'est trop éduqué, c'est plus une œuvre d'art. C'est trop propre. Et c'est ce que diront spontanément les artistes. C'est trop léché, vous voyez. On voit très bien. C'est quelque chose qui fait que la matière n'est plus matière. C'est très, très mystérieux. C'est là la difficulté, vous voyez, de voir qu'est-ce que c'est que la vérité de l'œuvre d'art. Parce qu'il y a quelque chose dans l'œuvre d'art qui demande que la matière soit vraie. Une matière qui n'est plus vraie va faire que l'œuvre d'art n'a plus sa splendeur. Je ne peux pas séparer de l'œuvre d'art l'idéal et la matière. C'est une incarnation de cela. Mais c'est une incarnation qui se fait de l'extérieur et pas de l'intérieur. Puisque la matière sera toujours extérieure. Même dans la poésie, la matière est extérieure, poète. Pourtant, c'est là où la matière est la plus éduquée. Mais justement, le poète va sentir très fort que quand cette matière est trop éduquée, la parole, le langage, l'œuvre d'art, ça coule trop, c'est usé. Il faut redonner aux mots leur caractère d'originalité, leur caractère propre, pour que le poète et le poème soient poèmes. Quelque chose d'inédit dans le mot, quelque chose d'informel, quelque chose d'abrupt, qui vient du mot dans sa nativité propre. C'est pour ça que très facilement on retournera au mot dans son origine pour redécouvrir le caractère abrupt du mot, donc de la matière du poète. C'est très curieux cela. Alors, ce qui fait qu'on est en présence, voyez, dans l'œuvre d'art, dans la vérité de l'œuvre d'art, on est en présence de quelque chose qui est complexe. Je crois que la vérité de l'œuvre d'art est toujours complexe. Qui explique, voilà, comment si facilement on dira très bon pour la forme. Nul pour le contenu. Hein, ça arrive, ça. Oui, la correction. Parfait pour le contenu, nul pour la forme. Il y a des fautes d'orthographe. Hein. Alors l'artisan, mais je m'en fiche. Tout ça, c'est de la matière. Et c'est vrai. J'ai vu ça. Je me souviens, parce qu'une dissertation, c'est une œuvre d'art. Il y a quelque chose d'une œuvre d'art. C'est une dissertation en philosophie grecque. Alors le philologue, qui lui n'avait jamais de thèse à corriger, parce qu'il était impossible. Alors il n'avait jamais de thèse, les étudiants fuyaient. Alors il était là, en gendarme. Dès qu'une thèse de philosophie grecque m'apparaissait, s'il y avait un manque d'accent. Alors, un manque d'accent à tel mot grec faisait qu'il était là. Non, on ne peut pas donner la note supérieure. Il manque un accent. Vous voyez, ça c'est la correction du gendarme par rapport à la matière. Le formalisme par rapport à la matière. Vous trouvez quelque chose d'analogue dans la vie religieuse. Il y a des gendarmes dans la vie religieuse. Ils n'ont pas de costume particulier, ils sont comme ça. Vous trouverez des gendarmes comme ça dans la vie familiale. On verra le manque d'accent. Sous toutes ses formes. Hein. Sous toutes ses formes. ce que me disait l'autre jour un prêtre, en disant, quand l'évêque vient, il n'ose rien dire, mais il regarde si le canopé est de couleur liturgique. Donc je pensais à cet accent, vous voyez. Alors, ça, c'est la vérité pratique, vous voyez là. La vérité pratique de l'œuvre implique une complexité telle qu'on pourrait dire qu'on ne trouve jamais une œuvre d'art vraie. Parce qu'on prend toujours, toujours du côté de la matière quelque chose qui manque. Et cependant, c'est une œuvre vraie. Mais il faut accepter qu'il peut y avoir des incorrections du côté de la matière. Ne prend pas possession totale de la matière, ne la dompte pas entièrement. Et que si elle la domptait, ce ne serait plus une œuvre d'art. C'est très, très curieux, ça. Et je crois que c'est vrai. Il y a quelque chose de très particulier dans la vérité de l'œuvre d'art. À cause de ça. Il faut respecter que la matière ne soit pas entièrement domptée. Qu'elle soit sauvage, c'est-à-dire qu'elle reste matière. Et quelquefois, vous voyez, alors là, ça fait partie de ces choses curieuses, modernes. Quelquefois, pour montrer que la matière existe, on fera un petit coin sauvage. Vous savez, c'est comme pour la confiture, pour montrer que c'est une confiture c'est une œuvre d'art, la confiture. Pour montrer que la confiture, c'est bien fait avec des fraises. Un coin, vous trouverez une fraise. Tout le reste, c'est du jus. Mais ça ne veut rien dire, une fraise. Au moins de la matière. C'est pour montrer que la matière est authentique. Alors que si c'était parfait, on n'aurait pas besoin de ça. Ça, c'est parce que c'est une œuvre faite en série. Alors, on fait ça. Et en série, on montre le petit coin qui viendra s'ajouter. Alors, la vérité de l'œuvre d'art, conformité de l'œuvre avec l'idéa. Mais l'idéa implique l'incarnation. C'est l'idéa qui choisira la matière. C'est l'idéa qui choisira les outils. C'est l'idéa, et ainsi de suite. Donc, la matière fait partie de la vérité de l'œuvre d'art. Autrement, on tombe dans un formalisme. Et la matière impliquera toujours, parce qu'elle ne sera pas entièrement domptée, puisque la forme viendra de l'extérieur, impliquera toujours quelque chose qui sera le hasard, qui sera abrupt, qui sera non conforme à l'idéa. Toujours. C'est extrêmement curieux, ça. Alors quand c'est trop, on voit qu'on dira cette œuvre n'est pas achevée. Quand c'est de. Vous voyez, quand la matière reste trop sauvage, cette œuvre n'est pas achevée. Et quand la matière est trop domptée, cette œuvre est trop polie. Les deux extrêmes de critique, constamment, qui viennent comme ça, parce que justement, il faut une harmonie entre la forme et la matière. Une harmonie, mais une harmonie qui reste subjective, qui n'est pas objective. Les uns diront ça, les autres diront ça. C'est que ceci fait comprendre combien c'est difficile de voir la vérité dans la beauté. Et au fond, on distinguera toujours le vrai du beau. L'œuvre d'art est faite pour être belle. Elle doit être vraie. Mais elle est faite pour être belle. Et alors, la beauté n'étant pas la vérité, je comprends que de fait, il y aura tout le temps, dans le côté vérité d'une œuvre d'art, quelque chose qui fait qu'on peut la critiquer. Il y a toujours un risque pour l'artiste. Mais c'est la différence d'une recherche de la vérité spéculative. Mais dans la réalisation d'une œuvre d'art, je suis obligé, quand je transmets la vérité, de la transmettre par des mots, par un langage, par une écriture, une thèse. Et il y aura toujours le risque de ne pas être compris. Parce qu'on est en un face d'une œuvre d'art. La vérité s'impose, mais l'œuvre d'art ne s'impose pas. Elle séduit. C'est pas la même chose du tout. Elle séduit. Mais elle peut séduire certains et pas séduire d'autres. Je crois qu'il faut accepter ça dans la vérité de l'œuvre d'art, dans la vérité de la connaissance artistique. Elle ne peut pas avoir la même unité que l'être. Elle ne peut pas avoir la même unité que l'œuvre naturelle. Elle a une unité de complexité. Puisque l'idéa provient de l'extérieur. Il ne provient pas de l'intérieur. Mais il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que c'est ce qui fait la difficulté de la critique des œuvres d'art. Alors, c'est un problème de critique, ça. Existe-t-il une critique de l'œuvre d'art ? À cause de ça, je crois personnellement qu'il n'y a pas de critique de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art est par elle-même incritiquable. On l'accepte, on ne l'accepte pas, c'est différent. On la goûte, on ne la goûte pas. Mais en elle-même, pourquoi ? Parce qu'il faudrait vivre de l'idéa de l'artiste. Pour pouvoir critiquer. Ou bien alors je critique au nom de la morale. Mais c'est plus une critique d'art. Je dis cette œuvre d'art risque de séduire. Présente uniquement des scènes violentes. On peut dire c'est mauvais. Cela est du mal. Ça, c'est très bien. Mais c'est pas le point de vue artistique qui est critiquable. Mais c'est toujours la dualité qui existe entre les deux. Et là, on retrouve une autre dualité. Mais dans l'œuvre d'art elle-même, il y aura toujours une inadéquation entre la forme et la matière. Et donc, la vérité est tout à fait différente. Il y a un aspect subjectif, il y a un aspect temporel de la beauté d'une œuvre d'art et de la vérité de l'œuvre d'art. Il y aura toujours ça. Le beau n'exige pas la vérité absolue, mais une vérité vraisemblable. Et quand on dit vraisemblable, c'est justement qu'on ne veut pas dire une beauté absolue. Alors, j'aime pas beaucoup le mot vraisemblable. J'aime mieux dire que la vérité ne peut pas être absolue. Elle est dans l'expression, elle est dans la matière. Et le lien entre l'expression et la matière n'est jamais adéquat. D'une façon parfaite. Certains aiment que ce soit le plus adéquat possible. D'autres veulent au contraire que la matière prime. Et ça se voit très très fort dans notre monde d'aujourd'hui. C'est pour ça, critique d'art, vous voyez. Je sais pas si ça existe. C'est une chose récente. C'est pour les journalistes. Critique d'art. Je dirais, il y a une éducation à donner à une œuvre artistique. Alors ça, je comprendrais. Je comprendrais que quelqu'un qui apprécie énormément telle œuvre d'art puisse faire comprendre au public qui n'est pas initié comment il faut la regarder, comment il faut la recevoir. Alors là, je dirais une pédagogie pour recevoir la vérité artistique. Mais ce n'est pas une critique. C'est faire passer la beauté artistique, la faire passer au public, qu'elle soit acceptée. Alors, on la rend Mais c'est... On explique le tragique qui s'exprime dans l'œuvre d'art et qui peut-être prend quelque chose de trop violent. Le tragique de l'œuvre d'art violent, c'est quand justement la matière est comme pulvérisée. Alors, on n'a plus d'attention sans le sujet. Il n'y a plus que les contraires sans le sujet. Le sujet n'existe plus. Il n'y a plus que le tragique. Le tragique est l'état pur. Alors, on l'explique pour se faire comprendre. Je peux préciser maintenant les diverses modalités du beau. Pas du vrai, mais du beau. Quand j'ai vu que de fait l'œuvre d'art est belle et vraie, et que son critère de beauté, sa beauté, disons, sa beauté est autre que sa vérité. Et d'autre part, les deux se tiennent. Une œuvre d'art, pour être vraie, doit être belle. Alors je peux regarder la beauté au plan artistique à des niveaux différents. Et je crois que c'est important de la regarder à des niveaux différents. Je la regarde au niveau de l'œuvre proprement dite. C'est là où on la voit le mieux. Je peux la regarder à l'intérieur de l'idéa. Je peux la regarder dans la matière. Je peux la regarder dans l'usage que je fais de l'œuvre. Je crois que j'ai ces différents aspects-là. On pourra les développer.